Chapitre 4. Le temps fuyait, effleurant tout de son aile, effaçant tout souvenir. Mais Burton n'en pensait pas moins à celle qu'il regrettait toujours. Et Mary invoquait sa mère chaque fois qu'un motif de tristesse ou d'inquiétude venait peser sur son cœur. « Si elle vivait encore, elle viendrait à mon aide, et je ne souffrirais pas, » disait-elle, oubliant que les chagrins de la femme ne s'apaisent pas comme ceux de l'enfant sous les caresses d'une mère, et ne se doutant pas qu'elle était bien supérieure comme esprit et comme intelligence à l'humble créature dont elle pleurait la perte. On était toujours sans nouvelles de sa tante, et Burton suivait les clubs avec assiduité, d'autant plus grande que Mary ne revenait souvent que fort tard et passait quelquefois la nuit à l'atelier. Wilson était resté le meilleur de ses amis, et Jem, l'ancienne connaissance de Mary, que nous avons vu s'autoriser de ce titre au commencement de notre histoire, était maintenant un beau jeune homme, dont le visage expressif aurait été charmant sans les quelques grains de petite vérole dont il était marqué. Il travaillait dans l'un de ces ateliers immenses qui fournissent de machines et d'engins de toute espèce les possessions du tsar et l'empire ottoman. Son père et sa mère ne se lassaient pas de le vanter quand Mary était présente, et la jolie fille secouait la tête, comprenant bien que tout cela revenait à dire qu'il ferait un bon mari, et n'avait pas d'autre but que de favoriser un amour dont le pauvre Jem n'avait jamais parlé, mais que ses yeux et sa rougeur trahissaient malgré lui. Un jour que l'ouvrage pressait moins à l'atelier, et que Mary revenait chez elle plutôt qu'à l'ordinaire, elle rencontra la pauvre Alice, qui, depuis la mort de sa mère, lui avait toujours témoigné la plus sincère affection. Elles causèrent pendant quelques instants, et la vieille fille, apprenant que Mary était libre pour toute la soirée, lui demanda si elle voulait venir prendre le thé avec elle.
Oh, « Ne va pas croire que je t'invite tout bonnement pour me tenir compagnie, » lui dit Alice. « Non pas. Je sais trop bien que les vieilles gens n'amusent guère la jeunesse. Mais il viendra une jeune personne qui travaille comme toi à la couture et qui demeure au-dessus de moi. Une bonne fille, seule, avec son grand-père, fileur de son état. Je suis sûr qu'elle te plaira, tant elle est douce et bonne. »
Mary s'empressa d'accepter, et la vieille Alice, chez qui les réceptions étaient choses peu communes, rentra bien vite faire ses préparatifs, alla chez la voisine lui demander un soufflet pour activer son feu, difficile à faire prendre au fond de ce bouge humide, prit ses patins, courut à la pompe remplir d'eau son poêlon, emprunta deux tasses en passant, quant aux soucoupes, ébréchées ou dépareillées, peu importe, elle en avait en quantité suffisante, pour tenir lieu d'assiette au besoin. Et poussant jusque chez l'épicier du coin, elle acheta une demi-once de thé qui, avec un quarteron de beurre, absorba complètement le salaire de sa journée. Mais ce n'est pas tous les jours fête. Elle essuya soigneusement ses deux chaises, mit une vieille planche sur deux caisses à chandelle pour se faire un siège à elle-même, plutôt par dignité que pour y avoir ses aises, dressa près du feu sa pauvre petite table, y posa sur le plateau des vernis les tasses et la théière. Puis, regardant autour d'elle avec satisfaction, elle se demanda ce qu'elle pouvait faire de plus pour bien recevoir ses hôtes, et montant sur une chaise, elle prit sur le haut du buffet un vieux coffre, d'où elle tira soigneusement quelques-uns de ces gâteaux d'avoine secs et friables qu'on mange dans le Cumberland. Cette fois, tous ses apprêts terminés, elle s'assit tranquillement et attendit qu'on vînt. Ce fut Marguerite qui arriva la première. N'entendant plus rien chez Alice, après le bruit inusité qu'avait fait la vieille fille, elle en avait conclu qu'il était temps de descendre et ne s'était pas trompée. D'une pâleur maladive, elle avait les traits flétris et l'apparence des enfants qui ont grandi au sein de la pauvreté. Son visage avait une expression de tristesse habituelle que le sourire ne parvenait pas à chasser. Et le grand fichu de laine marron croisé sur sa poitrine et soigneusement attaché qui recouvrait le corsage de sa robe d'étoffe brune et grossière témoignait à la fois du peu de ressources et du caractère modeste de la jeune fille qui le portait. La vieille Alice reçut cordialement sa voisine, la fit asseoir près du feu et tâcha de se mettre en équilibre sur le banc qu'elle s'était réservé.
« Je ne peux pas comprendre ce qui empêche Mary de venir, » dit-elle après quelques instants. « Je l'avais pourtant priée de ne pas trop se faire attendre. Elle a ça de grande dame qu'elle vient toujours trop tard. »
Mary était à sa toilette et se demandait quelle robe elle devait prendre. Non pas que ce fût à l'intention d'Alice, mais elle tenait à produire de l'effet sur quiconque ne l'avait jamais vue, et pensait à la jeune fille
qu'elle allait rencontrer. La coquette se décida enfin pour sa robe neuve de mérinos d'un joli bleu, et prenant bien la taille. Mit son col de batiste, n'oublia pas ses manchettes, et partit avec l'espoir d'impressionner vivement sa nouvelle connaissance, but qu'elle atteignait toujours, et qu'elle ne manqua pas. La pauvre Marguerite ne se lassait pas d'admirer la jeune fille, qui maintenant baissait les yeux en rougissant presque blessée de l'intention qu'elle éveillait, et qu'elle avait voulu captiver à tout prix. Figurez-vous, s'il est possible, toute la peine que prenait la bonne Alice pour faire le thé parfait, le sucré à point, servir les tartines et les gâteaux d'avoine. Surtout la joie de l'excellente femme en voyant disparaître ces friandises qu'elle avait tant aimées dans son enfance et dont elle écoutait d'une oreille attendrie l'éloge qu'en faisaient ses convives. « Ma mère m'en envoyait toujours, disait-elle, sachant bien qu'on aime mieux tout ce qui vient du pays. D'abord, je n'ai jamais vu personne qui n'ait trouvé ces gâteaux-là de son goût. Quand j'étais en maison et qu'il m'en arrivait, tous mes camarades se réjouissaient d'avance, sachant bien qu'ils en auraient leur part. Je vous parle de longtemps, vous n'étiez pas au monde. » « Racontez-nous donc quelque chose de ce temps-là, bonne Alice, » demanda Marguerite. « Mais ma fille, je n'ai rien à vous conter. Il y avait à la maison plus de bouches qu'on ne pouvait nourrir. Alors mon frère, Tom, le père de Will, vous ne connaissez pas Will, qui est marin au long cours. Mon frère Tom quitta le pays pour venir à Manchester, et bientôt nous fit savoir qu'il y avait de quoi y occuper tous les garçons et toutes les filles. Mon père envoya George d'abord, celui que vous connaissez. Puis, comme l'ouvrage devenait rare de nos côtés, il me fallut entrer en condition. On écrivit à George, et voilà qu'un beau jour, le boucher vient de sa part dire que je pouvais partir, et qu'il y avait une place où j'étais attendu. J'étais jeune, et comme toutes les jeunesses, je n'en savais pas bien long. J'étais contente de m'en venir à la ville, mon père aussi de me savoir en bon gage. Ma mère ne disait rien, et semblait un peu triste. Je crois qu'elle avait le cœur gros de me voir aussi joyeuse, au moment de la quitter. Mais que voulez-vous? Les enfants, ça ne sait guère, et que Dieu leur pardonne. Elle prit donc toutes mes hardes, qu'elle plia soigneusement dans cette boîte de sapin que je ne brûlerai jamais. Elle a au moins 80 ans, cette pauvre boîte, car ma mère l'avait déjà étant fille, et s'en était servie pour emporter ses habits de chez son père quand elle s'était mariée. Or, je vous disais donc qu'elle fit mon paquet sans rien dire, et qu'elle ne pleura pas, mais les larmes lui montaient jusqu'aux yeux. Et quand je me retournai au bout du sentier, je la vis qui me regardait toujours en mettant sa main devant son front pour se garantir du soleil. Et c'est la dernière fois que j'ai vu ma pauvre mère. Elle était morte quand vous êtes revenu au pays, demandèrent les deux jeunes filles. Je n'y suis jamais retourné. Bien des fois, j'en avais fait le projet. Toujours il a manqué. Je le fais encore, et j'espère y aller avant que Dieu m'ait rappelé. Quand, à force d'épargne, j'eus mis de côté ce qu'il fallait pour y aller y passer la semaine, une chose ou l'autre est venue qui m'a toujours empêché. Une fois, c'est l'enfant de madame qui a pris la rougeole et qu'on ne pouvait quitter. Puis, c'est madame qui est tombée malade et qu'il fallait soigner. J'avais tout à faire et tout à surveiller. Ma pauvre dame au lit, son mari qui buvait ne valait pas grand-chose, un petit magasin qu'il tenait, et les enfants, la cuisine et le savonnage. Vous voyez bien que je ne pouvais pas partir. Mais, pour l'année suivante, madame m'avait promis que j'aurais toute une quinzaine. Je commençais donc à faire un couvre-pied pour le porter à ma mère, comptant toujours sur les vacances promises. Mais notre maître vint à mourir. Madame quitta la ville, et je fus obligé de chercher une autre place. « C'était le moment ou jamais d'aller voir vos parents ?» interrompit Mary. « Mon Dieu, non. Du moins, je ne le crois pas. Je ne voulais aller chez mon père qu'avec un peu d'argent, pour ne rien lui coûter. Ensuite, au pays, ce n'est pas là que j'aurais trouvé des places. » Et peut-être après tout que j'aurais mieux fait tout de même. Si vous saviez combien je l'ai regretté. J'en ai pleuré longtemps. Mais il faut accepter ce que le bon Dieu nous envoie. Quand l'hiver fut fini, comme je venais d'achever mon couvre-pied, Georges vint un soir et me dit que notre pauvre mère était morte. Je sanglotais toutes les nuits. Je n'avais pas le temps pendant le jour. La maîtresse où je me trouvais alors était fièrement exigeante et ne voulut pas me permettre d'aller à l'enterrement. D'ailleurs, je serais arrivé trop tard. Georges, qui était parti tout de suite, ne put y assister. C'était fini de la veille, et mon père lui dit qu'il s'en irait du cottage, ne pouvant plus le souffrir depuis que ma mère était morte. « L'endroit est-il joli ?» demanda Mary à la vieille fille. « Le plus beau pays du monde. Figurez-vous des montagnes qui s'en vont jusqu'au ciel et des rochers superbes tout auprès du cottage, c'est-à-dire, car vous n'en avez jamais vu, pauvre fille de Manchester, d'énormes pierres de grès, plus grosses que des maisons, couvertes de belles mousses, et de la bruyère où l'on enfonce jusqu'aux genoux, et le bourdonnement des abeilles, le chant des petits oiseaux, toutes sortes de bonnes odeurs et de la musique dans l'air. Maman nous envoyait dans les brandes, ma sœur Sally et moi, cueillir de cette bruyère dont on fait les balais. Nous revenions vers le soir si chargés qu'on ne nous voyait pas sous nos bottes, et nous nous asseyions sous le vieil aubépin pour éplucher la bruyère avant de la faire sécher. Je crois encore y être, et cependant, bien du temps s'est écoulé depuis lors. Il y a déjà 40 ans que ma pauvre sœur est morte, mais je voudrais bien savoir si l'aubépin y est toujours, et si l'on va encore ramasser de la bruyère. Quand j'y pense, et bien souvent ça me poursuit, je me sens malade au fond du cœur. Je voudrais revoir tout cela une fois avant de mourir. Et, si Dieu le permet, j'irai l'été prochain. Je ne comprends pas comment vous n'y êtes pas allé, surtout depuis si longtemps que vous n'êtes plus en service. Va, ma fille. C'est bien que je ne l'ai pas pu. En vieillissant, on devient plus pauvre, et l'on ne voyage pas sans argent. Quand j'en avais un peu, je trouvais vite à le placer. Tom, pauvre gars, n'était pas très rangé. Mais sa femme, car les mauvais sujets ne s'en marient qu'un peu plus tôt, n'avait guère de santé. Ils n'étaient pas heureux, et de la main et de la bourse, il fallait les aider. Ils moururent à quelques mois l'un de l'autre, laissant un petit garçon. Ils en avaient eu 7, mais le bon Dieu en avait rappelé 6. L'enfant qui restait, c'était Will, que j'ai pris avec moi, et je me suis mise en chambre pour qu'il eût un chez lui. C'est un homme à présent, et un bel homme encore. J'ai tout fait pour l'empêcher d'entrer dans la marine, mais il en a tant dit que j'ai fini par céder. Il est parti, et maintenant il navigue du côté de l'Amérique, à l'autre bout de la terre. » La pauvre Alice n'avait plus rien à dire, et tomba dans une profonde rêverie. Était-ce au lieu de son enfance qu'elle retournait en rêve, ou suivait-elle le vaisseau qui portait son cher Will? Mais, se rappelant tout à coup les deux jeunes filles qui respectaient son silence, elle fit un effort sur elle-même et s'adressant à Marguerite. « Il faut, dit-elle, que tu nous chantes quelque chose. Mary ne t'a jamais entendu, et c'est un plaisir que je voudrais lui donner. On dit que ta voix est belle. Moi, je ne l'y connais pas. « Mais je sais que tu me fais pleurer quand tu chantes la complainte du vieux tisserand d'Oldham. Sois bonne fille et dis-nous cette chanson. » Marguerite laissa errer sur ses lèvres un pâle sourire et commença les strophes suivantes dans le patois naïf du pays de Lancaster. « Je suis un pauvre tisserand comme on en voit beaucoup, sans vêtements et sans pain. On ne donnerait pas de sous des haillons que j'ai sur moi. » Mes sabots sont cassés et mes pieds sont sans bas. Ne pensez-vous pas qu'il soit bien dur de n'être venu au monde que pour y avoir faim? Le vieux Dick O'Billy m'a souvent répété que j'aurais plus d'ouvrage si je ne me plaignais moins haut. J'ai souffert en silence, retenant jusqu'à mon souffle. Mais le pain n'est pas venu. Bientôt je mourrai de faim. Et le vieux Dick, qui jamais n'a poussé la navette, a l'estomac rempli. Nous avons 6 semaines durant tant jeûné, tant souffert, que nous pensions chaque matin que ce serait notre dernier jour. Les orties des fossés ont fait notre nourriture tant qu'on a pu en trouver. Et je vous le dis, ce n'est que trop vrai. Beaucoup d'autres que moi n'en ont pas davantage. Un jour, Billy O'Dans envoya les records pour un peu que je lui devais et que je ne pouvais payer. Mais s'il était trop tard, le vieux Dick était venu, prenant tout ce qu'il trouva pour payer son loyer. Rien ne restait au logis que le pauvre tabouret où Marguerite assise pleurait à côté de moi. « Plus rien dans la maison, » dit l'un des recors à l'autre. « Vous le voyez, bons messieurs, que je leur dis à mon tour, ne vous en fâchez pas. » Mais sans faire aucun bruit, l'autre prend l'escabeau qu'il avait avisé, et Marguerite et moi, nous tombons sur les dalles. Peut-on être plus bas? dis-je à ma pauvre femme. « Si jamais, pour nous deux, les choses pouvaient changer, ce serait pour être mieux, puisque, plus misérable, ne s'est jamais trouvé. Mais plus rien pour attendre. J'ai faim, je me sens mourir, et ni pain, ni métier pour pouvoir en gagner. Si j'avais des habits à me mettre sur le corps, me répond Marguerite, je m'en irais à Londres et parlerais au juge. S'il ne m'écoutait pas, j'irais trouver le roi. » car elle aime ce qui est juste, et sent quand on la blesse. Mais les habits lui manquent, et la force, et la voix. Pauvre femme, à quoi bon? Tout est fini pour toi. » La musique de ces paroles, espèce de récitatif traînant et monotone, fait éprouver à l'auditeur une émotion étrange quand celui qui la chante est lui-même vivement impressionné. Marguerite, souvent témoin de la misère dont elle faisait le récit, donnait à ce chant simple un caractère de suprême désolation, d'un effet indicible, et que tout le monde ressentait comme Alice. La vieille fille pleurait cette fois comme toujours, et Marguerite elle-même, subissant l'émotion qu'elle faisait éprouver, restait pensive en songeant à la réalité de ces douleurs qu'elle venait d'exprimer. Tout à coup, donnant à sa voix toute sa puissance, elle fit éclater cette invocation qui s'éleva jusqu'à Dieu. « Seigneur, tourne les yeux vers nous et souviens-toi de ton peuple. » Alice joignit les mains, entraînée par cette prière. Mary, haletante, regardait tout émue la pâle jeune fille, dont un connaisseur plus habile n'eût pas moins admiré la voix superbe que le talent réel dont elle donnait la preuve. Et Deborah Travis, ouvrière dans une fabrique d'Oldham, avant d'être l'idole du public fashionable, aurait reconnu sa sœur dans cette humble jeune fille qui s'ignorait elle-même. Quand les dernières vibrations du psaume eurent cessé, une voix mâle et tremblante en reprit le verset final. « C'est mon grand-père, » s'écria Marguerite. « Il faut que je parte, car il m'a recommandé de ne pas rester trop tard. » Mary sortit en même temps qu'elle. Et quand toutes les deux se trouvèrent sur le palier, Marguerite pria sa compagne d'entrer quelques instants. « Je serai contente que grand-père vous connût, » lui dit-elle. Et Mary entra chez le vieux fileur.